carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, nous nous trouvons à la Fondation Taylor dans un atelier qui est consacré pendant 3 semaines à l'œuvre de Jacques Gestalder. Et je me trouve en compagnie de Jacqueline Gestalder, qui a très bien connu Jacques Gestalder, puisque vous avez partagé sa vie pendant plusieurs années. Alors, on va voir comme ça, de façon rapide, l'œuvre de Jacques Gestalder, et puis ensuite, on va s'arrêter devant certaines œuvres. Jacques Gestalder s'est surtout intéressé à la danse. Il se trouve que vous êtes danseuse, on devine que vous êtes rencontrée lors de séances, peut-être de pauses. Comment est venu à Gestalder cet amour pour la danse?
Alors, il se trouve que Roland Duflot, qui était à l'époque premier danseur de l'opéra, c'était en 1950, a emmené Jacques Gestalder au cours d'un célèbre professeur et chorégraphe, Nicolas Xereff. À ce moment-là, Gestalder découvre la danseuse étoile Lisette d'Arsonval. Et alors, c'est pour lui une véritable révélation. Il dira du reste, je cite ses propres mots, « Je cherchais depuis longtemps ce qui me paraissait le plus propre à donner une idée plastique de notre époque, dans ce qu'elle pouvait avoir de plus pur et de plus représentatif. J'ai découvert ce que j'appelle une nouvelle aristocratie. » Il disait aussi « Je vois dans la danse, sous une forme démocratisée quant à la naissance, un nouvel ordre social sous son aspect hautement esthétique. » Et alors, quel climat de joie pour le sculpteur avide de forme que rien d'inutile n'encombre, et quelle joie lorsque cette chair, ces muscles sont habités par un esprit égal à tant de splendeur et de force libéré dans la lumière. » Alors voilà, ce qui l'exaltait, c'est de sculpter des corps qui étaient en fait déjà sculptés par l'effort. Et c'est ça qui lui plaisait.
Et par l'art, pas seulement par l'effort.
Par l'effort, par l'art et par une sorte de, comment dire, de passion et de rigueur. Il aimait la rigueur qui conduit à la liberté ensuite. C'était un homme de rigueur, mais en même temps un homme de liberté. Mais il avait compris très tôt que pour atteindre la véritable liberté, il fallait une rigueur à la base. Et c'est cela qu'il attirait dans la danse classique, notamment.
Et aussi ce souffle qui fait que ces corps jaillissent et transcendent la condition humaine physique. Effectivement, nous nous retrouvons dans la Fondation Taylor, dans cette grande pièce où nous voyons plusieurs sculptures, notamment celle qui figure, qui est maintenant à l'Opéra Garnier. Il y a une sorte de reconnaissance réciproque entre les danseurs et Jacques Gestalder, en quelque sorte. Il y avait un rapport de complicité qui s'était créé.
Tout à fait. Les danseurs étaient pour Gestalder, pour mon mari, sa véritable famille. C'était pour lui des frères et des sœurs dans le domaine de l'art. Du reste, il avait le même âge que les danseurs à l'époque. Et pour lui, les danseurs et lui, il y avait entre deux une sorte d'osmose. Même la grande étoile Wilfried Piolet disait « Lorsque Gestalder est là pour nous dessiner, nous sommes pris par une certaine exaltation et il nous inspire et nous avons envie de donner le meilleur de nous-mêmes. » Parce que le fait de voir que quelqu'un les observe leur donne envie de donner le meilleur. Donc. Alors il y avait une sorte d'échange très fructueux entre les artistes chorégraphiques et l'artiste plasticien.
Thank you.
Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de cette sculpture du danseur étoile Alexandre Kaliouchny, un bronze qui figure maintenant dans les locaux de l'Opéra Garnier?
Alors, Alexandre Kaliouchny fut un grand danseur étoile et qui se doublait d'un grand professeur, chorégraphe. Il fut du reste le professeur des étoiles. Et il est mort un peu tôt, malheureusement. Il était de l'époque Lisette d'Arsonval, c'est-à-dire dans les années 60. Et là, cette sculpture le représente dans un sceau des danses polovtziennes du prince Igor. C'est l'une des chorégraphies dans laquelle il excellait le plus. Et c'est curieusement Elisabeth Platel, qui est la directrice de l'école de danse à Nanterre actuellement, qui a choisi cette pose. Si on peut appeler cela une pose, puisque c'est un saut. Le danseur est monté sur une tige, et là, c'est assez extraordinaire comme mouvement. Et effectivement, on peut voir cette sculpture en haut de l'escalier qui conduit à la bibliothèque-musée de l'Opéra Garnier. Elle fait partie de l'Opéra, mais en fait, c'est sous l'égide de la BNF, puisque la bibliothèque de l'Opéra Garnier dépend de la BNF. Donc, à la BNF, il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres, c'est certain, mais il y a une sculpture, qui est celle de Kaliouchny, Alexandre Kaliouchny. Là, vous voyez tout l'élan, toute la force et la grâce en même temps. Si vous voulez, la robustesse se double de la grâce. Les deux s'allient parfaitement. C'est cela qui est important.
Par ailleurs, Jacques Gestalder a surtout sculpté les femmes danseurs.
Oui. L'Alexandre Kaliouchny, cette sculpture lui a été commandée par le cercle Carpeau de l'Opéra. Il a beaucoup dessiné les danseurs, mais surtout les danseuses, effectivement. Il préférait dessiner les danseuses que les danseurs, si on peut dire. Bon, il admirait beaucoup la grâce féminine, mais de la même façon, il voyait l'aspect sportif dans la danse. Il voyait l'aspect de la grâce, mais aussi l'aspect sportif. C'est pourquoi ces sculptures n'ont aucune mièvrerie, ne sont pas très fines. Elles sont plutôt robustes, mais robustes et aériennes à la fois. Là, vous avez du reste une belle sculpture de danseuse, qui fait partie des collections du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et Brigitte Lefebvre, la directrice de la danse à l'Opéra Garnier, a une attirance particulière pour cette statue. Je lui disais, elle est peut-être un peu forte pour une danseuse, et elle m'a repris assez brutalement, presque, en me disant, mais non, c'est toute la force et l'énergie qui se dégagent de cette œuvre. Et une œuvre, comme le disait également mon mari et comme le disait Rodin, doit pousser du dedans vers l'extérieur. Et c'est une sorte de poussée vers l'extérieur pour, si vous voulez, pour que le public soit frappé, pour atteindre le public. Il faut savoir, c'est comme les danseurs qui savent se présenter au public et ceux qui restent trop réservés. Là, c'est une sorte d'élan vers le spectateur, donc une poussée de l'intérieur vers l'extérieur, qui fait que cette énergie se transmet au spectateur.
Thank you.
Alors, Jacques Stelder passait d'abord par le dessin. Alors, il allait à des cours de danse ou à des répétitions. Il dessinait énormément. Ensuite, passait par le plâtre, j'imagine, avant de passer au marbre.
Tout à fait. C'est vrai qu'il a passé sa vie dans les studios de danse. Il était tout le temps dans le métro, le carton à dessin sous le bras. Et tous les jours, ou presque, quotidiennement, il allait dessiner les danseurs et les danseuses. Il se tassait, si on peut dire, dans un coin, par terre. Il n'avait pas besoin de chaise ni rien du tout. Et il dessinait en saisissant le mouvement sur le vif. Mais le mouvement, comme le dit bien Wilfried Piolet, il ne le figeait pas. Si vous voulez, on sent aussi bien dans ses dessins de danse que dans les sculptures ce qui a précédé le mouvement et ce qui va suivre ce mouvement. Donc, il reste vivant, il n'est pas statique. Ses sculptures ne sont pas statiques, elles sont vivantes parce qu'on sent ce qui a précédé l'arabesque ou l'attitude, et on sent également le mouvement qui va suivre. Donc, c'est un peu comme certaines photos qu'on prend, où on voit plusieurs aspects de la photo, et ces sculptures sont donc vibrantes.
Oui, les danseurs ne posaient pas, en quelque sorte. Ils ne restaient pas figés dans une attitude.
Pas du tout. Alors,
vous avez posé pour votre mari ?
J'ai posé pour mon mari dans une sculpture en plâtre, dont le bronze n'a pas encore été tiré et qui ne figure pas ici parce qu'elle est trop grande, trop encombrante. On a un problème avec le transport et les sculptures. Donc là, nous avons mis surtout des petites sculptures. Et donc, mon mari dessinait. À partir du dessin, il exécutait l'argile, il travaillait l'argile. Ensuite, il faisait lui-même ses moulages en plâtre. Et le plâtre est donc donné au fondeur pour un moulage en creux et une fonte. Et voilà comment apparaît la fonte. Sinon, il y a également les pierres. Il y a quelques sculptures de pierres, dont les deux danseurs étoiles, Robert Pujol et Violette Lothar. Je crois que c'est dans Roméo et Juliette. Cette petite pierre est très expressive, elle chante. Bon, la jeune femme penche sa tête sur l'épaule du danseur. Et donc, il y a encore tout un mouvement. Mais la pierre reste un matériau plus lourd, mais bien que ce soit plus lourd, il essayait toujours d'en faire jaillir l'esprit, si on peut dire. Il voulait que de la matière inerte jaillisse cette force de l'esprit.
Oui, puis c'est de la taille directe, c'est un tout autre travail. Hein.
Voilà, tout à fait. Quoique pour celle-là, il y a eu un plâtre. Il fait tantôt des tailles directes, tantôt il y a un plâtre qui sert de modèle, et mon mari refaisait donc la taille de pierre.
Et jamais il ne travaillait à partir de photographies ?
Non.
Partir de ses dessins à lui ?
À partir de ses dessins et aussi de ses souvenirs de ce qu'il avait vu au cours. Mais en fait, le dessin est vraiment la base de travail du sculpteur. Du reste, vous remarquerez qu'un dessin de sculpteur n'est pas un dessin linéaire. Notamment ceux de mon mari, ce sont des dessins en volume. Et ce sont des dessins sculpturaux, tout simplement, qui diffèrent de dessins linéaires. On sent toutes les dimensions, si vous voulez, presque les trois dimensions. Hein. On sent le volume dans l'espace. Là, il y a donc différents dessins de nus. Là, et puis de l'autre, sur l'autre face, là, sur l'autre mur, vous voyez donc des sanguines de danse, dont l'une très célèbre, c'est la danse du cygne noir, extraite du lac des cygnes de Tchaïkovski. Et il y a dans le regard une dureté, mais qui est voulue par le dessinateur, puisque c'est Odile qui va enchanter, mais de la mauvaise manière, donc le prince, en lui faisant croire qu'elle est Odette, le beau cygne du premier acte. Donc voilà, beaucoup de danseuses, il y en a des centaines, et là nous avons choisi celles qui nous paraissaient les plus caractéristiques
de son travail. Mon mari a toujours aimé dessiner et sculpter les étoiles car leur mouvement se prolonge dans le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a le pressentiment du mouvement précédent et du mouvement qui va suivre. Il y a une fluidité, il y a un lien entre chaque mouvement. L'arabesque n'est pas figée. Avant, il y a eu l'arrivée vers l'arabesque. Après, il y aura l'allongement du bras et tout ça se fait dans une grande fluidité. Alors que les danseuses moyennes marquent chaque figure en faisant des arrêts, ce qui donne un aspect un peu saccadé et qui fait que parfois on critique la danse classique et on préfère la danse contemporaine ou enfin toutes sortes d'autres danses, notamment par exemple quand on parle d'Isadora Duncan ou de Loy Fuller, qui dansait avec des voiles, avec grande fluidité. Mais la danse classique, chez les grandes danseuses, possède cette fluidité. C'est vraiment l'école de l'énergie et de la volonté. Et en même temps, avec toute cette énergie, il faut garder une grâce, une douceur et une poésie. Il faut arriver à allier les deux, et c'est ce qui se passe chez les grands interprètes.
De poésie, effectivement, Gestalder aimait bien la poésie au point d'en écrire.
Oui, il a écrit de nombreux poèmes sur tous les sujets, mais naturellement beaucoup sur la danse. Justement, dernièrement, il y a environ 3 semaines, une soirée poésie avait été organisée à Paris où des poèmes ont été lus et j'espère que peu à peu, ce côté poésie de mon mari sera mis en lumière. Je pensais peut-être un livre pourrait être édité avec dessins, poèmes. Mais c'est vrai qu'il y a de magnifiques poèmes qui ont déjà été enregistrés. Et là, vous en voyez des exemples qui sont affichés là, à côté des sculptures, notamment la Madriade. Vous voyez, cette sculpture de la Madriade a un aspect un peu plus bacchanal. La Madriade, c'est une nymphe des bois dans les légendes celtiques qui naît et meurt avec un arbre. Alors vous voyez l'arbre là, qui, et puis sa jambe repliée, puis son torse très, très renversé et le regard dirigé vers le soleil. Et voilà le poème que l'on a découvert par hasard qui s'appelle La Madriade. Une amadriade au faune pervers, en ses cheveux verts, tendait l'embuscade. Ses cheveux de feuilles cachent des secrets, et là se recueille le dieu des forêts. Ses bras en liane étreignent le vent, et cueillent des glanes les soupirs des champs de la terre, d'où fusent des cris,
où l'oiseau lumière et songe de nuit. Belle Amadriade, ton humidité est rose de jade, sois ma volupté. Je veux que ta sève, liqueur du lac bleu, délecte les lèvres de ma bouche en feu. Ces mains que j'avance, vois, vont te saisir, proie de ma démence et de mes désirs. Mais la Amadriade, toute pureté, arrête, prends garde, je suis la beauté. La beauté poignarde. Il sentit son cœur, sous la Amadriade, s'arrêter de peur. Ô nymphe, ma joie, l'amour m'a tué, ton regard foudroie, je meurs de beauté.
Cocteau, il l'a connu en lui écrivant, et ensuite il a fait un peu partie de ses intimes, et il allait le voir très très souvent, parce que Cocteau a été frappé par ses lettres, très chaleureuses, car bien qu'il soit très adulé, Cocteau très connu, même à son époque, en fait il avait aussi une solitude intérieure, comme tout un chacun. Donc,
il lui a dédié le film... Le testament d'Orphée.
Voilà, alors Cocteau a adressé à mon mari un dessin, son autoportrait, qui est le même que celui qu'il dessine sur la vitre au générique du film Le testament d'Orphée. Et il lui dédie son film en lui disant « Je suis comme vous, seul au monde, et je le serai encore plus pour le film » qui est finalement pour personne. Et ensuite, il ajoute « si », souligné, « pour vous ». Alors, c'est très émouvant, parce que c'est vrai, donc, il s'agissait du testament d'Orphée, qu'il lui dédie de manière tout à fait officieuse, bien entendu. Il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais je garde précieusement ce témoignage d'amitié profonde de la part de Jean Cocteau et que mon mari lui rendait bien. Alors maintenant, j'aimerais retrouver, bien sûr, les lettres que mon mari écrivit à Cocteau. Ce serait intéressant, mais là, il faudra peut-être faire des recherches. La naissance d'une statue participe de cette loi naturelle d'éclatement, de poussée furieuse, de volonté de jaillissement qui fait que, comme le disait Rodin, tout doit pousser
du dedans au dehors. Que veut la statue qui est exigeante, sinon occuper l'espace pour en elle absorber sa plénitude de lumière? Et que veut le sculpteur, sinon obéir à cette volonté, se soumettre à cet espace et à cette statue dévorante? Éclairer la beauté quotidienne sous un tel jet de rayons qu'elle en paraisse cristallisée est l'acte fervent de l'art et l'émotion de l'artiste. Nageur magique, l'artiste plonge aux profondeurs et en revient des diamants pleins les mains. Plonger en soi et par soi, pénétrer la signification des formes, puis laisser de ses doigts jaillir l'image modelée ou rêvée, choisie ou imposée par le contact ou le choc, entre le monde et soi et l'aventure de l'esprit.
Qu'est-ce que vous venez de nous lire, Jacqueline Gestalder ?
Alors, c'est en fait un extrait de la biographie de Gestalder sur son maître Robert Vlérick. Et à plusieurs endroits, il donne sa conception de l'art. Et là, c'était un petit extrait de ce qu'il ressent et de comment il conçoit l'art.
Merci beaucoup, Jacqueline Gestalder, pour ces explications, pour la visite de cet endroit et pour votre témoignage. Merci.